Donc, on est en 1717. Ça fait 2 ans que Louis XIV est mort. Antoine a installé sa famille vers La Rochelle ou Bordeaux, je ne sais pas très bien. Et avec un fils, François, ils ont décidé de remonter sur Paris. C'est encore toujours le problème, se disculper, laver son honneur, etc. Donc Louis XIV est mort, remplacé par son neveu Philippe d'Orléans, le régent, puisque le fils de Louis XIV est mort, le petit-fils est mort, il reste un arrière-petit-fils qui est un tout petit garçon, donc il faut une régence. Le régent a trouvé les caisses de l'État parfaitement vides. Louis XIV a beaucoup guerroyé et puis il a beaucoup construit. Or, le régent a besoin de payer une certaine liberté financière quand même. Donc il va faire confiance à un Écossais financier, John Law. Et John Law a une idée. C'est convaincre les Français, qui en ont les moyens, d'apporter leur or. Donc les médailles, les bijoux, les pièces. Donc on voit des Français, ça a marché. On voit des Français arriver avec des seaux ou enfin des boîtes. On apporte l'or. Alors on pèse l'or, on le met tout de suite de côté. Et on donne un beau papier au Français qui est venu apporter cet or, où on écrit la date, et puis Monsieur Trucmuche, aujourd'hui, a remis 2 kg 250 d'or. Et le monsieur repart avec son papier, c'est l'ancêtre des billets de banque, hein, ou des assignats de la Révolution. Et ça marche, pendant plus d'un an, jusqu'à ce que finalement des Français aient la mauvaise idée de revenir à plusieurs. Dire finalement le papier peut se déchirer, je l'ai assez vu, ça peut brûler, je voudrais bien récupérer mon or. Ah ben oui, mais on ne peut plus vous le rendre, votre or il a été fondu, il a servi à autre chose. Donc scandale, John Law est obligé de s'enfuir, mais le régent n'est pas mécontent, il a un petit peu de liberté financière. En même temps, il existait des compagnies de commerce, les compagnies des Indes occidentales et la compagnie des Indes orientales. Ça végétait. Et comme on cherche des sous, on va mettre des actions en vente pour ces compagnies de commerce. Antoine et son fils arrivent à Paris. Et à peine sont-ils à Paris qu'on s'empare de leur personne et qu'on les met à la Bastille. Là aussi, on allait dans les archives de la Bastille, on a leur numéro d'écrou. Donc, je rappelle l'acte de funérailles à Castelsarrasin, l'acte de baptême à Saint-Nicolas, le contrat de mariage à Québec et les numéros d'écrou de prisonniers aux archives de la Bastille. Et on nous dit « suspect des discours inconsidérés ». C'est pour ça qu'on les met à la Bastille. Alors, en effet, dans la compagnie des Indes occidentales, Il y a la Louisiane, que l'on présente comme un nouvel Eldorado. Il faut investir, acheter des actions de la Louisiane et vous allez vous enrichir, c'est garanti. Il ne faudrait pas qu'Antoine et son fils aillent raconter la réalité de la Louisiane. Donc on les met au frais, 5 mois. Antoine rédigera un mémoire, gardera le moral. Au bout de 5 mois, toutes les actions sont vendues. Donc on les ressort. Et comme Antoine a rendu service à la France, eh bien on le décore de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancêtre de la Légion d'honneur. Et surtout, on lui paye tout ce qu'on lui doit. Car depuis que ça va mal pour lui en Louisiane, ça fait déjà plusieurs années, il n'a plus d'émoluments, plus de salaire. Donc on lui paye tout. Donc il a un joli pécule. Son fils François, on le nomme mousquetaire du roi. Comme ça, il a une rente assurée jusqu'à la fin de ses jours, quoi qu'il arrive. Nos deux gaillards reviennent auprès de Marie-Thérèse et des autres enfants. On récupère tout le monde et on vient à Saint-Nicolas. Et on achète. Il règle la succession de ses parents qui, depuis 60 ans, n'a pas été réglée. Mais on achète et il va être, pendant un moment, le plus gros propriétaire de Saint-Nicolas. Donc, on est installé là, la famille, auprès de Marie-Thérèse, qui est charmante, hein, mais bon... Antoine s'ennuie un peu quand même, il n'a pas traversé X fois l'Atlantique pour rester comme ça à Saint-Nicolas. Alors il a encore une idée, il va remonter à Paris. Et il signe chez un notaire une procuration pour Marie-Thérèse. C'est exceptionnel, il l'a déjà fait au Canada, donc il refait ici. Elle peut acheter, vendre tout terrain, tout bâtiment qu'elle juge nécessaire. Il a totalement confiance, c'est elle qui gère les biens de la famille. Donc il remonte à la cour. Alors à la cour, on se moque un peu de lui, on trouve qu'il radote, que c'est un vieux monsieur, etc. Mais ça fait rien. Il va, ce qu'il veut, c'est obtenir des titres de propriété. Parce que quand il a quitté le fort Pontchartrain, il s'est rembarqué avec sa femme pour la France, il a laissé une maison, il a laissé des terrains. Il a confié ça à quelqu'un, mais c'est tout, il n'a aucune preuve. Donc il va batailler pour obtenir les titres de propriété, ce qu'il va obtenir. Dès qu'il a ça, il met en vente, c'est attendu à Détroit, on connaît le nom de l'acheteur. Et il a à nouveau une rentrée d'argent. Donc il revient à Saint-Nicolas et il apprend que le poste de gouverneur de Castelsarrasin est à vendre. Parce qu'à cette époque, pour être juge, pour être avocat, pour être membre du Parlement, gouverneur, fallait payer. C'était un office qu'on achetait. Ce n'est pas une question d'étude. Donc il achète et la famille s'installe à Castelsarrasin. Bon, dans le palais du gouverneur, un peu rural, mais tel qu'il est côté jardin aujourd'hui et tel que ça paraît côté rue. Et c'est là qu'il va finir ses jours, puisqu'il meurt en 1730, il a 72 ans, ce qui est une belle espérance de vie, surtout pour quelqu'un qui a pris quand même des risques. Voilà, là c'est la photocopie des funérailles, de l'acte de funérailles du registre paroissial de Castelsarrasin. Alors avec Marie-Thérèse... Donc voilà une statue, je ne sais pas si cette statue existe encore, mais c'est un personnage populaire, aimé. Donc Marie-Thérèse et Antoine ont eu 13 enfants. Soit née sur la côte, soit née à Québec, soit née après à Détroit. Alors, aucun n'est né en France, bien sûr, elle était trop âgée. Mais quand Antoine meurt, en 1730, il n'en reste que 3. Il reste Joseph, qui est un avocat véreux, qui a épousé une dame de Castelsarrasin dont il a eu 2 filles, mais donc elle porte le nom du père, mais elles ne le transmettront pas. Il reste Marie-Thérèse, qui s'est mariée aussi à Castelsarrasin, avec un monsieur Pouzargue, dont elle a eu 8 enfants, garçons et filles, mais il porte le nom du papa. C'est malgré tout par cela qu'il y a quelques années, on a retrouvé un descendant, qui a tout découvert de son ancêtre. Enfin, moi, je n'étais pas là, mais voilà. Mais bon, c'est le nom de Pouzard. Il reste François, dont on a déjà parlé, mousquetaire du roi, qui a épousé une dame de Castelsarrasin, mais veuve, qui avait plus de 40 ans et donc qui n'a pas eu d'enfant. Ce qui fait que ce nom de la Motte Cadillac, inventé par Antoine, l'a bien servi, lui, mais n'a pas été transmis.